En quittant la ville de Athènes, l'apôtre Paul a senti le besoin de faire le point sur la manière dont il prêchait l'Évangile. Et lorsqu'il est allé dans la ville de Corinthe, il a écrit plus tard qu'il y est allé dans un état d'esprit un petit peu différent. Dans la première épître aux Corinthiens, il écrit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il avait senti le besoin de remettre la croix de Jésus au centre de sa prédication, plutôt que toutes sortes d'autres arguments. Et ainsi, le plan du salut se présente devant nous comme un grand panorama contenant plusieurs moments importants dans notre chemin pour revenir vers le royaume de Dieu. Et la croix, bien entendu, a une place importante en plein milieu, au centre même de ce panorama, de ce cheminement pour rejoindre le royaume de Dieu. Si la croix est donc si importante, j'aimerais que nous y pensions encore un peu aujourd'hui. Il y a quelque temps en arrière, je relisais dans le livre Jésus-Christ les pages qui concernent ces derniers moments de la vie de Jésus. Et j'ai été impressionné de voir plusieurs faits étranges liés au moment de la croix. Plusieurs faits étranges. Et pensez, imaginez, j'en ai trouvé 7, bien entendu. J'aimerais partager avec vous ces 7 faits étranges que j'ai trouvés en rapport avec la croix. Le premier m'est suggéré par le texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23 et au verset 44 et 45. Évangile selon Luc, au chapitre 23, les versets 44 et 45. Il est écrit ceci. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. C'était un vendredi de Pâques, une grande fête. Beaucoup de gens étaient venus à Jérusalem pour la fête. Et c'est environ 3 heures de l'après-midi. Voilà déjà 3 heures que les ténèbres sont sur la ville et tout le monde est en train de se demander ce qui se passe. On a bien entendu parler de ce procès et de cette crucifixion qui a lieu hors de la ville. Mais les gens sont venus d'abord pour la fête de Pâques et tout le monde se demande ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que la colère de Dieu est tombée sur la ville par ces ténèbres? Et vers 3 heures, c'est le moment où l'on va pratiquer dans le temple le sacrifice perpétuel. Il y a beaucoup de gens pour être témoins de cette cérémonie. Et dans le temple, le prêtre s'apprête à égorger l'agneau que l'on sacrifie tous les jours, matin et soir. Et au moment où le prêtre est prêt à trancher la gorge de l'agneau, il entend dans son dos un bruit sourd, assourdissant. Il se retourne et comme tous les gens qui sont là, il se rend compte que dans le temple, le lourd et épais rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint est en train de se déchirer d'une façon spectaculaire, de haut en bas, et ouvre, au regard de tout le monde, le lieu très saint. Et tout le monde découvre que ce lieu très saint est vide. Depuis 600 ans, il n'y a plus d'arche avec les 10 commandements dedans. Jérémie les a cachés quelque part. Or, ils ont peut-être fait une arche facsimilée, mais l'arche de l'Alliance, dans laquelle se trouvaient les 10 commandements, elle n'est pas là. Le lieu très saint est vide. Et on se demande, ce culte, à quoi sert-il? Que signifie-t-il maintenant? Mais alors que ce grand bruit a lieu dans le temple, le prêtre qui était là prêt à sacrifier l'agneau, lâche son couteau, se retourne, lâche l'agneau, et l'agneau s'en va, l'agneau court tout seul. Et fait étrange, ce jour-là, ce soir-là, l'agneau ne sera pas sacrifié. En fait, le véritable sacrifice aura lieu hors de la ville, là où l'agneau de Dieu, par son propre sacrifice, est en train d'ôter les péchés du monde. Mais ce jour-là, ce soir-là, alors que les ténèbres ont couvert Jérusalem, l'agneau ne sera pas sacrifié. Étrange. Ce premier fait étrange autour de la crucifixion de Jésus a amené sans aucun doute beaucoup de gens à se poser la question de savoir quel est donc le lien qu'il peut y avoir entre cet événement catastrophique qui a eu lieu dans le temple et que personne n'attendait, et la mort hors de la ville sur la croix de ce personnage tellement controversé, ce Jésus que l'on est en train de mettre à mort. Y a-t-il un lien entre les deux? Serait-il finalement celui qu'il prétendait être, le Fils de Dieu? Nous ne saurons jamais combien de gens se sont posé la question et où leurs pensées les ont conduits dans cette réflexion par rapport à Jésus ce jour-là, alors que l'agneau n'a pas été sacrifié. Étrange vraiment. Et puis il y a un deuxième fait étrange que je trouve suggéré par ce qui nous est dit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22, au verset 43. Quelque temps avant, nous retrouvons Jésus à Gethsémané. Et dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22, au verset 43, il est dit ceci. « Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Les anges dans le ciel sont prêts à voler au secours de tous ceux qui, disciples de Jésus, sont confrontés à la difficulté, à la souffrance, à la peine. Et là, les anges dans le ciel se demandent ce qui se passe. Comment est-ce possible que l'humanité puisse traiter de telle manière leur chef qui vient précisément pour les sauver? Les anges ne comprennent pas. Et je peux imaginer dans le ciel, les anges, le regard tourné vers le Père, qui attendent l'autorisation de venir, de se précipiter pour réconforter Jésus, pour soutenir Jésus. Ils le font avec les êtres humains vers qui Dieu les envoie. Pourquoi donc Dieu ne leur permet-il pas de le faire maintenant avec Jésus? Et je pense à ces anges qui sont là dans un silence incroyable, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui tournent les regards vers le Père, attendant du visage du Père la permission d'accomplir leur mission. Et sur le visage du Père, il n'y a que la peine, que la souffrance, que la tristesse. Et ils attendent, mais pourquoi donc Jésus doit-il souffrir tout seul ? Le Père ne va-t-il finalement pas permettre que nous y allions? Et finalement, Gabriel, sur le visage du Père, lit ces paroles. « Va, vas-y. » Et à la vitesse de l'éclair, plus encore, Gabriel accourt et il vient fortifier Jésus. Mais les anges ne comprennent pas. Je pense à ce passage d'Ésaïe 53 qui disait « Qui a cru ? Qui a cru ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Ce deuxième fait étrange, c'est que finalement, on a l'impression que ni sur la terre ni dans le ciel, personne ne comprend ce qui se passe à Golgotha. Permettez que je vous lise ce paragraphe tiré du livre Jésus-Christ à la page 762. Ce n'est qu'après la mort de Jésus que le caractère de Satan fut clairement révélé aux anges et aux habitants des autres mondes. Le chef des rebelles s'était déguisé avec tant d'habileté que même des êtres saints n'avaient pu comprendre ses mobiles. Mais alors, si même les anges ont du mal à comprendre la subtilité de la tromperie de l'ennemi, qu'en est-il alors des êtres humains que nous sommes? Et c'est un fait étrange de voir à quel point, à ce moment-là comme aujourd'hui, au pied de la croix comme aujourd'hui, les êtres humains prennent finalement à la légère la tromperie que Satan a présentée à l'humanité depuis toujours. Si Satan s'est déguisé si bien au point que les anges n'avaient pas vu, il nous faudra véritablement encore du temps pour comprendre. Et c'est la raison pour laquelle Satan, après la mort de Jésus, a eu cette prolongation de vie. Pour que la différence entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, soit claire pour tous les humains et dans tout l'univers. Étrange, vraiment. Étrange. Il y a un troisième fait étrange autour de la crucifixion et qui m'est suggéré par deux passages. Dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er et au verset 15, il est dit ceci. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. L'apôtre Jean, quelques pages plus loin, dans sa première épître, au chapitre 3 et au verset 8, écrit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Alors, si je comprends bien, sur la croix, Jésus est venu faire deux choses. Il est venu anéantir le diable et ses œuvres, et il est venu donner sa grâce pour sauver les humains. Ce sont là deux choses totalement différentes, totalement opposées. Mais alors, je ne comprends pas, parce qu'en fait, ce sont les humains qui ont mis Jésus à mort. Ce sont eux qui, depuis longtemps, ont fait des plans pour pouvoir éliminer ce Jésus qui les gênait. C'est eux qui l'ont mis sur la croix. Pourquoi donc ne sont-ils pas finalement exécutés? Pourquoi leur sort n'est-il pas définitivement réglé comme celui du diable à la croix? Pourquoi donc eux ont-ils une chance? À la croix, Jésus fait deux choses. Il anéantit le diable, mais il sauve les hommes. Pourquoi donc? Écoutez ceci. Bien que pécheur, l'homme était dans une situation différente de celle de Satan. Dans le ciel, Lucifer avait péché à la pleine lumière de la gloire de Dieu. L'amour divin lui avait été révélé mieux qu'à toute autre créature. Satan avait préféré suivre sa volonté égoïste et indépendante. Après ce choix irrévocable, Dieu ne pouvait rien faire de plus pour le sauver. Par contre, l'homme a été trompé, l'esprit obscurci par les faux raisonnements de Satan. Il ne connaissait pas la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Une possibilité subsistait alors, lui faire connaître cet amour pour qu'en contemplant ce caractère divin, il soit attiré de nouveau vers Dieu. Étrange. À la croix, le Christ détruit le diable et son œuvre. Mais sur la même croix, il sauve les pécheurs et leur donne la vie. Parce que ces pécheurs avaient été trompés. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ou du moins, ce qu'ils en connaissaient était faux. Faussé précisément par les raisonnements de Satan. Jésus est venu pour faire connaître toute la dimension du caractère parfait de Christ. Espérant par ce moyen-là que les hommes, comme Jésus le disait, serait attiré à lui, de nouveau. Étrange, vraiment. Un quatrième fait étrange se trouve lié à la croix. Il m'est suggéré par un texte dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2. Il est dit au verset 15, en parlant de Jésus, il est dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités » et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et là encore, j'ai de la difficulté à comprendre que l'on puisse considérer comme vainqueur celui qui meurt. Celui qui meurt, c'est le perdant. Et la Bible nous dit non, celui qui meurt ce jour-là sur la croix, c'est le vainqueur. Mais l'humanité ne le sait pas. Et pourtant, quand Jésus est né, ce sont des païens qui sont venus l'adorer. Les anges ont annoncé sa venue. La mère même a obéi à sa voix et reconnu ses ordres. la maladie et la mort ont reconnu son autorité, les démons fuyaient en sa présence et reconnaissaient publiquement son nom. Le soleil finalement s'est caché en deuil devant son sacrifice. L'univers entier a rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu et son peuple ne le sait pas. Son peuple ne le sait pas et pense que sa mort sur la croix est la plus grande défaite que cet homme ait jamais vécue. Et personne ne semble savoir que cette mort sur la croix est en fait la plus grande des victoires. La victoire qui va sauver tous ceux qui sont là en train de se demander ce qui lui arrive. Et bien sûr, ce quatrième fait étrange m'amène à me poser la question si j'ai compris. Si j'ai vraiment compris et accepté que cette mort sur la croix soit une victoire que Jésus a remportée et dont je peux bénéficier. Est-ce que par hasard, cette mort sur la croix n'est pas encore dans mon esprit une défaite ? Étrange, n'est-ce pas ? Il y a un cinquième fait étrange autour de la croix. Vous vous souvenez, les chefs religieux et le Sanhédrin, depuis longtemps, faisaient des plans pour éliminer Jésus. Ils étaient tous gênés par sa présence et son action. Et dans une réunion du Sanhédrin, vous vous en souvenez, Caïphe avait dit à ces gens, « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Ils craignaient Jésus pendant sa vie. Jésus leur a dit d'ailleurs, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. De quoi donc aviez-vous peur ?» Ils craignaient ce Jésus extraordinaire malgré tout. Mais le fait étrange, c'est que, après sa mort, ces mêmes chefs religieux sont allés voir Pilate et lui ont dit, « Écoute, nous nous souvenons qu'il a parlé de résurrection. S'il te plaît, envoie la légion romaine pour garder sa tombe. On a peur qu'il en sorte ou que ses disciples fassent quelque chose. » Envoyer la légion pour garder un mort. Oh, ils avaient de bonnes raisons d'avoir peur. Mais ce fait étrange me frappe. C'est que ces contemporains, ces chefs religieux, ces hommes pieux, versés dans les Écritures, avaient plus peur d'un Jésus mort que d'un Jésus vivant. Dans le même livre Jésus-Christ, à la page 773, il est dit, « Ils redoutaient le Christ, mort, beaucoup plus qu'ils n'avaient jamais craint le Christ vivant. » Ce cinquième fait étrange m'amène à me demander, « Ai-je peur du Christ vivant ? » Le Christ mort me fait-il peur aussi ? Et si jamais j'étais confronté à lui, s'il frappait à ma porte, serait-ce la joie ou serait-ce la peur ? Serait-ce la crainte ? Serait-ce la honte ? Serait-ce la plus grande joie de ma vie de voir le Christ devant moi ? Et finalement, c'est ce qui va arriver bientôt parce qu'il est prêt de revenir. Quand Jésus va revenir, sera-ce de la peur, de la crainte ou la plus grande joie que l'on puisse imaginer ? Lequel nous fait le plus peur, le Christ vivant ou le Christ mort ? Et je me demande, s'il venait à moi aujourd'hui, pourrais-je me réjouir de le serrer dans mes bras ? Étrange. Il y a un sixième fait étrange que j'aimerais partager avec vous et qui est vraiment étrange. Ce sixième fait étrange, c'est que dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 50, il nous est dit qu'au moment où Jésus a été arrêté, alors, nous dit le texte, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. J'ai du mal à comprendre. Quelques heures avant, Pierre était capable de dire, « J'irai à la mort avec toi. » Mais voici que quelques heures plus tard, il nous est dit, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et Marc nous raconte qu'ils ont tellement voulu prendre la fuite qu'il en est un qui s'est sauvé tout nu parce qu'il avait été saisi par son vêtement. Il ne voulait surtout pas être pris avec lui. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est sur la pointe des pieds qu'un Pierre et qu'un Jean viennent voir de loin ce qui arrive à Jésus. Les autres, on ne sait pas où ils sont, cachés quelque part. Morts de peur. Mais par contre, dans l'évangile de Jean au chapitre 19, j'apprends qu'au moment où Jésus meurt, Joseph d'Arimathée et Nicodème se lèvent, en public vont voir Pilate, demandent la permission de s'occuper de son corps. Et devant tout le monde, dans ce jour de fête, au pied de la croix, Joseph d'Arimathée et Nicodème vont saisir le corps de Jésus, l'honorent et le placent dans le tombeau neuf. Et là, je ne comprends pas. La mort de Jésus a fait fuir les disciples, mais voilà que sortent de l'ombre les vrais disciples qui, en public, vont déclarer leur amitié, leur amour pour le Christ. Écoutez cette phrase encore. Les mêmes événements qui avaient anéanti les espérances des disciples eurent pour effet de convaincre Joseph d'Arimathée et Nicodème de la divinité du Christ. Leurs craintes firent place au courage d'une foi ferme et inébranlable. C'est véritablement un fait étrange que ce même événement ait fait douter les uns et exploser la foi des autres. Que ce même événement ait pris les uns dans la peur et la panique totale et donné le courage aux autres de se lever en public et de montrer qu'ils étaient des disciples de Jésus. Alors, bien entendu, ce fait étrange m'amène à me poser la question. Ce que Jésus a fait, ce qu'il a fait non seulement sur la croix, mais ce qu'il fait encore aujourd'hui, et ce qu'il a fait dans ma vie, qu'est-ce que ça va produire chez moi? La peur, la crainte, la fuite, le doute, ou une foi solide, prête à être proclamée et annoncée publiquement? Je ne sais pas. C'est évidemment à chacun de nous de répondre, mais c'est étrange que ce même événement ait jeté les uns dans leur désarroi et la peur et qu'il ait conduit les autres à exprimer leur foi avec force et en public. Étrange, vraiment. Il y a autour de la croix un dernier et septième fait étrange qui m'interpelle. Cette croix, elle a été dressée il y a 2000 ans. Et au pied de cette croix, ce jour-là, il y avait des disciples qui ne savaient plus où ils en étaient et dont la foi s'était effondrée. Il y avait la mère de Jésus, écrasée par le chagrin, se souvenant des prophéties qui lui avaient été données à sa naissance. Il y avait là des gens religieux, des hommes pieux qui se moquaient ouvertement de lui et qui l'injuriaient. Il y avait là un centurion romain, une tête brûlée de la Légion, mais qui a été touché par le témoignage de Jésus et qui va publiquement reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Il y a là un escroc qui finalement va reconnaître qu'il a besoin de cet homme qui meurt sur la croix à côté de lui comme son sauveur personnel. Il y a un Simon de Cyrène qui n'a pas encore compris pourquoi il est là, mais qui est tout ému d'avoir à réaliser combien il a participé au sacrifice de Jésus en portant sa croix. Lui qui en fait est le pécheur. Croix sur lequel on va mettre celui qui n'a pas péché. Le fait étrange autour de cette croix, c'est que ces événements ont eu lieu il y a 2000 ans. Cependant, aujourd'hui encore, bien que cette croix ait été élevée il y a 2000 ans, nous nous trouvons au pied de la croix. C'est comme si cette croix était encore là et que d'une manière ou d'une autre, moi aussi, à un moment et à un autre de ma vie, je me retrouve au pied de la croix avec cette question qui était posée à Pilate, ce Jésus, que dois-je donc en faire? Que ferai-je de Jésus? La question s'est posée à ce moment-là parce qu'elle était vraie pour beaucoup de gens. Que ferai-je de Jésus? Et c'était une question terriblement embarrassante. Mais alors que cette croix a été dressée il y a 2000 ans, fait étrange, c'est comme s'il était encore là aujourd'hui, et c'est comme si cette question nous était encore posée aujourd'hui. Que ferai-je de ce Jésus en croix pour moi? Alors finalement, il y avait beaucoup de gens au pied de la croix, mais il y avait deux catégories en fait de gens. Il y avait ceux qui ont reçu Jésus sur la croix et qui ont été sauvés. Et l'autre catégorie, ce sont ceux qui étaient au pied de la croix et qui n'en ont rien fait. Car il suffit de ne rien en faire pour être perdu. Étrange. Il y a eu de nombreux faits étranges liés à la mort de Jésus sur la croix. Mais le plus étrange de tous, c'est celui-ci, qui fait que cette vieille croix, vieille de 2000 ans, d'une certaine manière se dresse encore aujourd'hui et fait que je peux aussi être au pied de la croix, moi, aujourd'hui. Et bien entendu, au pied de cette croix, il y a aujourd'hui ces deux mêmes catégories de gens, ceux qui lèvent les yeux vers lui et qui le reconnaissent comme le sauveur dont ils ont besoin, et puis les autres qui n'en font rien. Et parce qu'ils n'en ont rien fait, ce sauveur ne leur servira de rien. Je reconnais que ma vie ne donne pas toujours un message clair de ce que moi j'en ai fait de ce Christ sur la croix. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu le lui dire dans mon baptême, d'une façon claire et publique. C'est la raison pour laquelle je veux encore le lui dire aujourd'hui et le lui redire jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important qu'aujourd'hui et demain et le jour d'après jusqu'à ce que Jésus revienne, nous soyons capables de répondre à cette question : que voulons-nous faire de ce Jésus en croix ? Oh, il y a beaucoup de mystères autour de la croix. Elle dépasse d'ailleurs notre compréhension. Dans le prophète Ésaïe, il nous est dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Et je reconnais que les pensées de Dieu et que les voix de Dieu nous dépassent largement. Et la croix est sans aucun doute un de ces événements où la pensée de Dieu et l'action de Dieu nous dépassent largement. Cependant, même si la croix est vieille de 2000 ans, elle se présente encore à nous aujourd'hui, dans toute sa force et dans toute sa puissance, pour nous demander à chacun de nous positionner par rapport à celui qui est là en train de mourir pour l'humanité. C'est que la patience de Dieu a été plus loin que ce moment précis où l'on a érigé la croix à Golgotha. Cette patience de Dieu se prolonge. Elle se prolonge jusqu'à aujourd'hui et c'est pourquoi cette croix se dresse encore aujourd'hui dans un sens, nous invitant les uns et les autres à recevoir celui qui meurt pour nous comme notre sauveur personnel. Malgré tous les faits étranges qui entourent cette croix, le plus étrange, c'est qu'elle nous appelle encore. Et le plus beau, c'est que nous pouvons lui répondre. Amen.